Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 28. Suite à cet incident, Anthony prit la décision de s'accorder un week-end de répit. Il n'avait pas eu le loisir de revoir sa famille depuis son départ pour Paris, et sa mère s'inquiétait de son état de santé chaque fois qu'il lui téléphonait. Sans s'en rendre compte, il distillait dans ses coups de téléphone des symptômes évidents de surmenage et de stress. La discussion était toujours coupée par un autre appel, ou par une discussion avec un chauffeur de taxi, une hôtesse qui lui demandait de raccrocher. Sa mère lui apprit un jour que c'était son anniversaire en lui souhaitant. Il n'avait pas vu défiler les jours et les semaines. Il revint en Ardèche un samedi après-midi, sans prévenir. Le taxi qu'il avait pris à la gare de Lyon-Pardieu le déposa devant chez lui. Ses parents le reconnurent à peine. Il avait les traits tirés et la mine vieillie. On lui aurait donné volontiers 5 à 10 ans de plus que son âge. Si dans sa vie tout avait changé en quelques mois, chez ses parents le temps semblait au contraire avoir été figé. La télé était allumée sur la même émission du samedi après-midi. Il y avait toujours ses autocollants qu'il avait collés lui-même sur la porte du réfrigérateur il y a plus de 10 ans. L'odeur aussi était la même. Après une phase d'acclimatation d'une bonne demi-heure, où il dut raconter par le menu l'ensemble de ses activités professionnelles, il était de nouveau chez lui. Ici, personne ne le jugeait. Il se sentait soutenu, choyé, en sécurité sous le regard bienveillant de ses parents. Il admit intérieurement que ce sentiment de bienveillance lui faisait cruellement défaut au quotidien et il se promit de revenir plus régulièrement. Bercé par le son grave de la télévision, il sentit soudain une puissante fatigue le gagner. Ici, il pouvait se permettre de baisser la garde. Il ne devait pas sans cesse redoubler de vigilance. Il éteignit son téléphone portable et annonça à ses parents qu'il montait faire une sieste dans sa chambre. Ils crurent d'abord qu'il plaisantait. « Une sieste, Anthony ?» Mais il joignit le geste à la parole en s'excusant et disparut dans sa chambre. Quand il se réveilla en sursaut, il faisait nuit. Désorienté, il paniqua un instant en ne trouvant pas l'interrupteur, puis se souvint qu'il était chez ses parents. Il regarda sa montre, 19h30. Puis il examina avec nostalgie quelques détails de sa chambre d'enfant. Quelques posters qui commençaient à jaunir et à se détacher, son poste radiocassette qui avait fait défiler tant de bandes magnétiques, il se rendit compte qu'il n'écoutait plus de musique. Une subtile odeur de thym parvint à ses narines. Sa mère préparait déjà le repas, il l'imagina ravi de le partager avec son fils et se pressa de descendre la voir. Au cours du repas, la discussion tourna autour de ce qui s'était passé l'été précédent. Ses parents, alors plutôt hostiles à l'idée qu'il passe ses vacances à cueillir des fruits, semblait avoir changé radicalement de position. Rétrospectivement, Anthony avait un peu de mal à retrouver les sentiments qui l'animaient à l'époque. Tant d'événements s'étaient produits, sa vie avait tellement changé. « Puisque tu es là, tu devrais quand même leur rendre une petite visite, non ?» suggéra innocemment sa mère au détour de la conversation. « J'ai peur de n'avoir pas grand-chose à leur dire. Nos vies sont si différentes. »« Tu sais, Marion est venue plusieurs fois ici. Elle était inquiète à ton sujet, notamment quand elle t'a vu la dernière fois à Paris. » « Ah bon? Elle est venue vous parler de ça? Que s'est-il passé exactement ?»« Elle est partie précipitamment alors que j'étais au téléphone, sans même me dire au revoir. »« Ce n'était pas très facile de te parler ces derniers temps, si je m'étais vexé chaque fois que tu m'as raccroché au nez. »« Je... » Anthony se remémora quelques coups de téléphone particulièrement embarrassants en pleine réunion ou lorsqu'il était très concentré sur un problème particulier. Il se rappela aussi qu'il avait coupé son téléphone avant de monter dans sa chambre et qu'il ne l'avait pas rallumé depuis. Le magasin devait être fermé à 7 heures, mais la crainte d'un quelconque problème dans la journée sans qu'on pût le mettre au courant lui coupa l'appétit. Son embarras soudain était palpable. « Non, mais je comprends que tu étais très occupé, » ajouta sa mère. Anthony resta muet. Avec sa fourchette, il poussa les aliments au bord de son assiette, puis posa ses couverts en essayant de reprendre le contrôle. « Tu as raison, je vais aller faire un tour. »« Faire un tour ? La 205 fonctionne encore ? » demanda-t-il à son père. « Sans doute, il n'y a pas de raison, » répondit-il. « Mais tu vas où ?»« Chez Jean-Jacques et Marion. »« À 7 heures ? Sans les prévenir ? » ?»« S'ils ne sont pas là, tant pis. » Il se leva et partit sur le champ. Ses parents finirent leur repas seuls et en silence, interloqués. Puis, en débarrassant la table, ils échangèrent quelques mots. « Quelle idée tu as eue de lui parler de ça aussi ?» grogna le père. « Si j'attendais tes efforts pour animer la conversation, on ne se serait rien dit et il serait parti comme il est venu, » se défendit-elle. Anthony retrouva sa voiture, son odeur, son comportement sur la route et apprécia l'ensemble. Il avait conscience d'agir de plus en plus souvent sur des coups de tête, des impulsions subites qui semblaient n'être contrôlées que par son instinct. Sa formation et sa courte expérience professionnelle lui avaient appris à agir et à réagir rapidement, à décider sans se soucier a priori des conséquences directes ou indirectes. Il n'avait à cet instant aucune idée de ce qu'il allait bien pouvoir dire à Jean-Jacques et à Marion si elle était là. Il allait se présenter devant leur porte et improviser en fonction de leur propre attitude. Il n'avait pas pu élucider l'énigme que représentait cette famille. Aussi continuait-il à les classer dans la catégorie des doux rêveurs à tendance hippie, déconnectés de toute forme de réalité. Il subodorait également qu'un événement dramatique avait fait exploser le noyau familial, mais il ignorait sa nature et ses conséquences réelles. Néanmoins, il n'était pas venu pour mener cette enquête, ni d'ailleurs pour un quelconque autre objectif assumé. Il était juste là, devant cette maison entourée d'étoiles et de verdure. Le froid était vif, la lumière d'un feu éclairait l'intérieur de son incandescence, il frappa. L'homme barbu abandonna son livre sur une table basse et se leva pour lui ouvrir. Son visage s'éclaira. « Anthony, quelle bonne surprise !»« Bonjour. »« Entre au chaud, je t'en prie. »« Je ne vais pas rester, je venais juste... » Marion descendit les escaliers 4 à 4. De sa chambre, elle avait entendu la voix de son père prononcer les mots qu'elle espérait depuis longtemps. Elle essaya de se raisonner pour n'en rien laisser paraître et afficha une moue vaguement souriante, polie mais dépassionnée, pour accueillir Anthony. « Salut. »« Salut Marion. » Jean-Jacques observa le jeune homme à la lueur des flammes et s'alarma à son tour de son apparence grisâtre. Il commanda à sa fille. « Marion, va me chercher de la mélisse et de la sauge, s'il te plaît. » « Non, mais j'ai déjà mangé, » se défendit Anthony. « Qui te parle de manger ? Viens t'installer près du feu et raconte-nous tes exploits dans la capitale. »«
Mes exploits ?»
Il s'installa sur un sofa qui faisait face à l'âtre. C'était la seule source de lumière et elle faisait danser des ombres dans toute la pièce. La gigantesque bibliothèque qui débordait d'ouvrages en tout genre était encore plus impressionnante sous cet angle et avec cet éclairage. Sur la table basse, d'autres livres étaient entassés ainsi que des partitions. Pendant que Jean-Jacques s'affairait dans la cuisine et que Marion fouillait quelques placards, Anthony détailla ce feu d'enfer qui embrasait la pièce. Les bûches incandescentes crépitaient sous les flammes folles, jetant de temps à autre des gerbes d'étincelles orangées. La chaleur infernale qui régnait derrière la vitre semblait être parfaitement canalisée et distribuée dans la maison. Il ne ressentait pas cette exposition brûlante et très directionnelle des cheminées habituelles. Il remarqua derrière les flammes un jeu de tuyauterie qui permettait sans doute cette régulation, tout en irriguant de chaleur les autres pièces de la maison. Jean-Jacques reparut avec une tasse brûlante d'eau chaude dans laquelle infusait un mélange d'herbes sèches dans un écrin sphérique en métal perforé. Il s'installa à son tour dans un fauteuil près du jeune homme et Marion qui le suivait s'accroupit à même le sol sur un tapis près du feu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Anthony à ses hôtes. « C'est ce qu'il te faut, » répondit Jean-Jacques, énigmatique comme à son habitude. Anthony trempa ses lèvres dans le breuvage sans appréhension après avoir retiré l'objet métallique du liquide. En entrant dans ses narines, l'odeur, déjà, eut un effet calmant immédiat. Une sensation de douceur et de plénitude l'envahit et il sentit une larme perler au bord de son œil gauche. Il l'effaça discrètement de son index et reposa la tasse sur la table basse. Jean-Jacques tenait lui aussi une tasse dans laquelle il puisait régulièrement une gorgée d'un probable autre filtre spécial. Un sourire sincère illuminait son visage et faisait briller ses yeux. Sa barbe très ordonnée et grisonnante lui donnait un air bonhomme tout à fait rassurant. Il émanait de sa personne, par ailleurs, une certaine tenue, une intelligence rare, mise au service des autres qu'Anthony n'avait jamais retrouvé, même chez les plus érudits de ses clients. Les flammes ondulaient lentement dans les yeux de Marion. Un peu distante, comme méfiante, elle semblait attendre d'Anthony des explications, des détails. Vêtue d'une simple chemise de nuit fine qui laissait une de ses épaules découvertes, il remarqua la douceur de sa peau caressée par la lumière des flammes. Sa position accroupie dévoilait une partie de ses cuisses musclées par la pratique intensive de la bicyclette, tandis que le feu projetait au hasard de ses rayons lumineux l'ombre de ses seins sur la fine étoffe qui les recouvrait. Anthony était maintenant parfaitement détendu et apaisé. Il se mit à raconter dans le détail, sans trop savoir pourquoi, et sans doute pour s'en décharger lui-même, le quotidien de sa vie à Paris, à New York ou à Londres. Il décrivit son catalogue de produits, l'état d'esprit de ses collègues, de ses vendeurs, ses réflexions personnelles sur ses clients, ses interminables voyages en avion, mieux qu'il ne le fit même à ses parents. Il parla sans arrière-pensée, sans chercher à plaire ni à déplaire ou choquer. Il fit une description qui lui semblait honnête de la situation dans laquelle il se trouvait. Il n'aborda pas, cependant, sa relation ambiguë avec Audrey, parce qu'il ne savait pas la qualifier d'abord et parce que c'était trop intime. Jean-Jacques semblait boire les paroles du jeune homme. Captivé par son récit, il ne le jugea pas et se contenta d'acquiescer pour encourager Anthony à poursuivre. Marion, elle, restait en retrait, une moue désapprobatrice sur le visage. Elle semblait encaisser chaque détail avec difficulté. Elle secouait imperceptiblement la tête à l'évocation des sommes dépensées par les clients de smartphones. Elle levait les yeux au ciel en imaginant les conséquences de ces modes de vie citadins et mesurait le fossé qui la séparait chaque jour un peu plus de l'homme qui se tenait en face d'elle. Anthony resta plusieurs heures au coin du feu, prit des nouvelles des arbres de Jean-Jacques, de ses récoltes, s'intéressa au prochain voyage de Marion, qui répondit sans passion. Rasséréné par cette boisson chaude et par cet échange, avec le sentiment d'avoir effacé ses éventuelles dettes morales envers cette fille, il les quitta vers minuit pour rentrer chez ses parents. Sitôt après son départ, Marion monta dans sa chambre, sous le regard impuissant de son père, et griffonna sur un morceau de papier quelques phrases qu'elle signa de ses larmes.